France Inter, le 6-9 du week-end, Éric Delvaux.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
On va parler de philosophie et de méditation ce matin avec vous. Comment initier les enfants à la philosophie, témoignage vécu dans ce documentaire où vous apparaissez. On évoquera tout à l'heure le Cercle des petits philosophes qui est en salle dans une trentaine de cinémas, dans 5 salles à Paris, on y reviendra. D'abord l'actualité aujourd'hui en ce dimanche de Pâques qui fait sens pour les chrétiens, jour de résurrection, le passage de la mort à la vie. Question donc ce matin, on en parlera avec les petits, mais déjà sur le vivre ensemble avec en filigrane cette séquence Notre-Dame qui semble avoir à la fois rassemblé puis divisé les Français. Cette cathédrale en feu, Frédéric Lenoir, lundi soir, en début de semaine pascale, quel symbole y avez-vous vu ?
Bah déjà, j'étais aux premières loges, puisque j'ai la chance d'habiter à quelques centaines de mètres de Notre-Dame, donc j'ai vu de la fumée. Je me suis dit, pourvu que ce soit pas Notre-Dame, parce qu'on a vu une énorme fumée. Et malheureusement, finalement, j'ai assisté au spectacle pendant plusieurs heures. Et j'ai été à la fois bouleversé, comme tout le monde, par ce qui se passait. Et puis en même temps, j'y voyais effectivement un étrange symbole, ce début de la semaine pascale. C'est finalement la semaine de la Passion du Christ, où le corps de Jésus a été martyrisé. C'est ce qu'on voyait, c'est là cet édifice, c'était symboliquement comme effectivement une passion de l'Église. Donc c'était très fort. Puis c'était aussi le soir où on s'en souvient, où Emmanuel Macron devait effectivement
prendre la parole pour annoncer
sur le grand
les conclusions,
débat, oui. etc. Et on sait que la France est très divisée avec toute cette crise qui n'en finit pas des gilets jaunes. Ça manifeste, je dirais, toutes les divisions profondes de la société française. Puis d'un coup, je vivais au milieu d'une foule rassemblée. Et j'étais frappé de voir la diversité des gens qui étaient là, et tout le monde était dans un moment de communion très intense, qui me rappelait un petit peu, alors toute proportion gardée, ce que j'avais vécu place de la République le soir des attentats de Charlie, où on était aussi très nombreux dans une tristesse accablante, et évidemment la mort d'homme est beaucoup plus grave que la destruction d'un bâtiment, mais on communiait aussi tous aux mêmes valeurs, c'est-à-dire que ce qui nous rassemblait ce soir-là, c'était vraiment l'attachement aux valeurs socles de notre République, c'est-à-dire
valeurs
la liberté.
Laïque. Et valeurs religieuses, enfin,
mais pas valeurs religieuses, je dirais. Chose, voilà. Ouais. Mais je dirais que ce qui nous rassemblait là, c'était des valeurs liées à notre République, c'est-à-dire la liberté de conscience et d'expression. Et là, ce qui nous rassemblait, c'était pas des valeurs, c'était un destin commun. Mmh. C'est-à-dire, c'était vraiment notre tradition historique qui fait qu'on se sentait dans la même identité. Et Notre-Dame, je voyais bien qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas catholiques autour de moi. Mmh. Et ce qui les reliait, ce qui nous reliait tous, c'était cet attachement, ce symbole de notre histoire.
Rassemblement des Français autour des cendres de Notre-Dame, qui a tout de même ses limites, ce rassemblement, dès qu'on évoque des questions d'argent, les dons colossaux des grandes fortunes françaises. Quel sens le philosophe donne-t-il à cette polémique sur l'argent ?
Elle est bien française. C'est-à-dire je pense qu'il y a quasiment qu'en France qu'on aurait une polémique pareille, puisque au départ, évidemment, tout le monde trouve que juste de la rebâtir. Puis dès qu'il y a eu des grandes fortunes, c'est là que la polémique est née. Dès qu'il y a eu des grandes fortunes qui ont dit qu'ils allaient donner de l'argent, immédiatement, il y a eu tout de suite sur Mediapart ailleurs, j'ai vu tout de suite surgir des ils se font de la pub, etc. Peut-être que cette polémique a eu une utilité, c'est très rapidement les milliardaires qui ont proposé de donner de l'argent ont renoncé à la défiscalisation. Ça, je trouve, c'est une très bonne chose. Parce que sinon, l'État, on le sait, paye en grande partie, effectivement, une part de leurs dons. Donc là, le fait qu'ils y aient renoncé, je trouve qu'il n'y a plus de polémique possible. C'est-à-dire que c'est bien qu'ils donnent de l'argent pour reconstruire Notre-Dame, plutôt que de s'acheter un yacht de plus ou un avion de plus.
Et si les dons sont supérieurs aux besoins, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait envisager avec cet argent ?
Tout à fait. Alors moi, je propose deux choses. Pour effectivement quand même donner un minimum de cadre à tous ces dons qui apparaissent colossaux. Je pense que si les dons dépassent les besoins, je l'ai dit dès le lendemain de la tragédie, on pourrait à ce moment-là envisager, pourquoi pas, de faire comme ça se faisait au Moyen-Âge, de construire des logements.
Avec l'Hôtel Dieu, on a fait pareil.
Exactement. Au Moyen-Âge, on construisait des cathédrales et à côté, systématiquement, on construisait des maisons pour les pauvres, des hospices. C'était l'Hôtel Dieu à côté de Notre-Dame. Pourquoi ne pas donner à des fondations comme Abbé Pierre et autres un surplus qui permettrait la construction dans toute la France de logements pour les plus déshérités. Puis la deuxième chose que j'ai proposée, c'est que l'histoire va retenir que le nom des milliardaires qui ont donné. Pourquoi ne pas faire, et je l'avais suggéré au recteur de Notre-Dame...
Écrire leur nom sur les cloches ?
Voilà.
Non, faire un registre
informatique dans lequel on mettrait tous les noms des gens qui ont donné, même si c'est 1 euro, et que ce serait consultable dans Notre-Dame rebâtie. Ça permettrait, c'est symbolique, mais ça permettrait quand même aussi voilà, de ne pas rester sur cette idée d'un mécénat des riches, parce que je suis sûr qu'il y a des centaines de milliers de Français, peut-être des millions, qui qui vont donner ne serait-ce que des toutes petites sommes. Et donc je pense que c'est une mauvaise polémique. Vous savez, on est le jour de Pâques,
oui.
Et il y a déjà cette scène dans l'évangile. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, il y a cette scène où quelques jours, 6 jours avant sa passion, c'est le lundi de avant Pâques, Jésus vient chez Lazare, ses amis, Marthe et Marie, et Marie lui offre un vase de parfum très précieux qu'elle verse sur ses pieds, comme pour honorer finalement le fait qu'il va mourir, parce qu'il a déjà annoncé. Et à ce moment-là, Judas dit, on aurait dû vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus lui dit, mais elle a fait ce geste. Les pauvres, vous les aurez toujours, vous pourrez toujours leur donner quelque chose. Moi, c'est unique et elle a fait ce geste pour honorer ma sépulture. Et je trouve que c'est exactement le même débat qui continue.
C'est drôle que vous citiez l'évangile de Jean, parce que je crois que ça a été une fulgurance pour vous dans votre
Oui, avis, c'est un évangile que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et donc, effectivement, j'ai le même débat. C'est-à-dire, lorsqu'on donne de l'argent pour quelque chose de symbolique, évidemment, on peut toujours comparer symbole. Quelque chose d'utile qui est les pauvres. Mais Frédéric je Denoir, pense que le symbole est très important aussi.
Sans vouloir opposer, évidemment, les causes caritatives, la cathédrale Notre-Dame a récolté en 48 heures 10 fois plus que le Téléthon en une semaine et en plusieurs jours. Qu'est-ce qui fait que le patrimoine mobilise plus que la recherche médicale? Est-ce qu'on peut expliquer ça?
Alors, si on situe les chiffres dans leur ensemble, en fait, le patrimoine, de manière générale, avant Notre-Dame, mobilise moins que les autres causes humanitaires.
Je parlais de cette séquence Notre-Dame.
Mais dans cette séquence Notre-Dame, oui. Parce qu'il y a une émotion collective D'accord. extrêmement forte. On est devant un des monuments les plus connus, les plus forts, les plus symboliques de notre patrimoine, qui brûle. Dans ce moment d'émotion, vous avez effectivement une collecte
colossale. Mais il
n'y a
pas
colossale.
Que ça, parce que le loto du patrimoine, par exemple, ça marche très bien.
Donc le patrimoine, oui, mais il faut savoir que c'est la deuxième, dans le mécénat, le deuxième don, c'est le patrimoine, après les causes humanitaires.
L'argent et l'Église, est-ce que ça a toujours été un sujet tabou, ou en tout cas un sujet polémique?
Ça, c'est toujours un sujet que oui, ça a toujours été depuis le 4e siècle, c'est-à-dire depuis que l'Église s'enrichit, puisque l'Église était pauvre pendant 4 siècles, et il lui est arrivé quelque chose qui a été, à mon avis, un mauvais coup, c'est la conversion de l'Empire, et surtout Théodose, on connaît Constantin qui a arrêter les persécutions et favoriser les chrétiens. Mais le pire, c'est Théodose, à la fin du 4e siècle, qui veut que l'Empire devienne chrétien. Et les chrétiens, à ce moment-là, ont eu le pouvoir. Et ils ont eu le pouvoir, ils ont eu la richesse, et d'un peuple persécuté, ils sont devenus persécuteurs. Ils ont persécuté les païens, et depuis ce moment-là, c'est le pouvoir temporel de l'Église qui pose problème. Il pose problème, je parlais de l'Évangile, on est le dimanche de Pâques, il pose problème par rapport aux paroles du Christ, qui a dit « Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc Jésus a séparé clairement le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Et l'Église, 4 siècles plus tard, a réuni les deux contre la volonté de son fondateur. Et c'est vrai qu'elle n'est toujours pas sortie de ce problème, ne serait-ce que l'existence de l'État du Vatican est une absurdité.
Le Vatican, aujourd'hui, est-ce qu'il a les caisses bien remplies? Et vous voyez ma deuxième question arriver, est-ce qu'il ne pourrait pas donner pour lui aussi reconstruire Notre-Dame?
Alors, il n'a pas les caisses bien remplies, au sens où il a plutôt des problèmes de trésorerie. Par contre, il a un patrimoine très important. On parle de patrimoine, donc il y a énormément, évidemment, de lieux qui appartiennent au Vatican, à la fois des églises, à la fois des musées, à la fois des écoles, à la fois des hôpitaux, des couvents qui sont souvent inoccupés dans des centres-villes qui valent très cher. Donc là, il y a ce patrimoine. Et effectivement, je ne sais pas si d'ailleurs le pape François ne l'a pas proposé, mais on pourrait trouver logique qu'il y contribue.
Et aujourd'hui, dans le message du pape Urbi et Orbi attendu aujourd'hui, on pourrait penser qu'il fera allusion à cette séquence.
C'est très possible. En tout cas, il a déjà fait allusion. Il a envoyé évidemment un message à l'Église de France et à tous les Français.
Il n'est pas venu à Paris, alors qu'apparemment il était invité.
Il a refusé l'invitation. L'actualité, Frédéric Lenoir, ce matin, notre invité, philosophe des religions. Il est 8h30. Frédéric Lenoir, votre actualité, c'est aussi donc ce documentaire, ça s'appelle Le Cercle des Petits Philosophes, une expérience filmée pendant plusieurs mois. Vous êtes allé rencontrer des élèves d'école de primaire pour les initier à la philosophie, des enfants de moins de 10 ans, donc leur apprendre à penser, à structurer un esprit critique. On voit bien dans ces films finalement que les enfants sont assez demandeurs d'ailleurs de cette démarche-là.
Ah, ils adorent ça. En fait, alors il faut bien préciser que ces ateliers de philosophie, c'est pas un cours de philosophie. C'est pas un lieu dans lequel lesquels on va enseigner Kant, Schopenhauer, Nietzsche, ils pourraient absolument pas comprendre. Par contre, on leur apprend à penser. Et donc, il s'agit de leur donner des outils qui leur permettent de penser par eux-mêmes. Et il y a une méthode dans laquelle je fais circuler la parole, on pose une question, d'ailleurs on leur demande quelles sont les questions qui les intéressent, et après je ne dis jamais ce que je pense. Par contre, je les aide à dialoguer, à débattre, à argumenter. Et c'est ça, philosopher.
À douter aussi,
à confronter leur point de vue et à donner des arguments. Et c'est merveilleux parce que les enfants adorent ça pour plein de raisons. La première chose, c'est que c'est le seul lieu dans l'école où on leur dit « Toi, tu en penses quoi ?» Alors partout ailleurs, ils sont là, ce qui est très bien aussi, pour apprendre et répéter. Et là, on leur dit « Non, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses. » Et on voit qu'ils pensent des choses qui nous étonnent. La deuxième chose, c'est qu'on leur apprend à écouter. Ils savent pas écouter. Et là, ils apprennent à s'écouter.
Vous reprenez un élève qui réplique à un autre élève en disant « Mais c'est bête ce que tu dis. » Et vous lui dites « Non, ce n'est pas bête. En revanche, tu n'es pas d'accord avec. »
Voilà.
Et ça, vous l'apprenez des gamins de moins de 10 ans.
Tout à fait. Et ils comprennent que chacun peut légitimement avoir une pensée différente et qu'il s'agit plutôt d'argumenter plutôt que de dire que c'est bête ou que ça n'a pas de sens. Il s'agit de toujours confronter effectivement des paroles. Et du coup, c'est un laboratoire de démocratie. On apprend aux enfants à s'écouter, à dialoguer, à construire un dialogue sur des arguments et pas s'envoyer avec des émotions.
Tout ça dans un calme incroyable. C'est ça qui était...
Et bon, le calme n'est pas là au départ.
Il y a une préparation. Voilà,
ouais, mais enfin, c'est quand même assez exceptionnel.
J'ai un petit temps qu'on appelle une méditation de l'attention.
Il y a un sas de méditation.
Il y a beaucoup de profs qui vont vous regarder en disant « Mais comment fait-il ? Je vais faire la
Alors,
même chose. »
C'est vrai que moi, j'ai fait des centaines d'ateliers philo dans les écoles depuis 4 ans et que je fais faire une petite pratique de méditation que j'appelle pratique de l'attention de 2 minutes où ils se calment avant. Parce que j'ai vu qu'ils étaient tellement agités, les élèves, qu'ils avaient du mal à rentrer dans l'exercice de l'atelier philo. Ce petit temps de méditation très simple, ça les aide énormément. Et moi, plein de profs m'ont dit « Mais on continue de le faire. » Parce que quand les enfants sont agités, d'ailleurs certains disent « Madame, on est agité, est-ce qu'on peut méditer ?» Et ça leur fait beaucoup de bien. Donc effectivement, le lien entre ce petit temps de l'attention et ensuite la pratique d'atelier philo, moi je pense que ça devrait se généraliser partout parce que ça fait beaucoup de bien aux enfants et les enseignants, une fois qu'ils y ont goûté, ils ont envie de continuer. C'est pour ça qu'on forme d'ailleurs des enseignants à ça.
Ce sas de méditation, de concentration pour se rendre disponible à la réflexion, à l'écoute de l'autre, c'est indispensable pour les enfants, c'est indispensable aussi pour les adultes.
Je pense que ça nous ferait du bien. Ouais. Quand on regarde les débats d'intellectuels à la télévision...
Vous pensez qu'à la télévision, il faudrait
mettre un peu les mains sur les genoux aussi, réfléchir et respirer.
Prendre un temps pour au moins écouter les autres, parce que le problème du débat, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ne s'écoutent pas. Et on le voit dans tous les débats qui ont lieu très souvent, chacun arrive convaincu qu'il a raison, n'écoute pas les autres, est juste là pour dire ce qu'il a à dire, et c'est très dommage. Parce qu'un vrai débat, on écoute l'autre et on se dit, peut-être qu'il a raison. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre aux enfants très rapidement. C'est
ça veut dire, pardon, écouter l'autre. Je vous écoute en même temps et je vous coupe, pardon. L'éducation nationale et les réformes successives ne prennent pas assez en compte cet aspect de la disponibilité de l'enfant que vous faites dans vos ateliers.
Alors, précisons quand même que je suis tout à fait pour le fait que l'école soit là pour les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre effectivement à lire, à compter, à écrire. Je trouve que c'est essentiel. Faut surtout pas le sacrifier. Mais à côté de ça, qui est l'essentiel, je pense que le fait qu'il y ait un petit temps dans lequel on apprend aux enfants justement à développer leur créativité, à pouvoir dialoguer, etc., est très utile. Certains enseignants, et pas mal d'enseignants, le font sans forcément que ce soit des ateliers à visée philosophique, comme je le fais. Ils essayent de faire dialoguer les enfants. Il y a des séquences comme ça dans les écoles. Mais je pense que ce n'est pas général et que l'outil de l'atelier philosophique est formidable. Donc là-dessus, je crois qu'on peut aller plus loin.
Mais à un moment donné, il y a un petit garçon qui dit cette chose extraordinaire. La philo, c'est quand on respecte la règle. Et puis il dit aussi, ça peut changer le monde.
Ben oui, moi j'en suis convaincu. Je suis convaincu que si tous les enfants du monde, dans toutes les écoles, pratiquaient ce temps de méditation qui leur permet de se calmer, de s'intérioriser, et pratiquaient l'atelier philo qui développe un sens de l'esprit critique, une capacité de dialoguer avec les autres, le monde changerait en une ou deux générations.
En quoi le monde serait différent ? En quoi ?
Parce qu'on apprendrait d'une part à gérer nos émotions, par la méditation, et d'autre part, et donc à apprendre à se calmer intérieurement, et d'autre part, on apprendrait à écouter et à dialoguer de manière constructive. Et donc, c'est une forme de tolérance. Parce que qu'est-ce que disent les enfants dans le film ? Il y a la phrase d'une petite fille qui m'a beaucoup touché à la fin, où elle dit « Ce que j'ai appris, c'est qu'on pensait mieux ensemble. » C'est-à-dire qu'on crée de l'intelligence collective. Les enfants, au départ, ils pensent pas que les autres ont des idées différentes, puis ils découvrent, et que cette différence, en fait, ça les enrichit. Parce que quand ils apprennent à écouter, ils s'aperçoivent que ce que dit l'autre, c'est intéressant, et eux-mêmes, ça leur apporte quelque chose.
Ce que nous apprennent les enfants dans ce documentaire, c'est que quelles que soient les origines, les cultures, les nationalités, presque, il y aurait une université une universalité de la pensée?
Alors moi j'en suis convaincu parce que j'ai fait des ateliers philo dans le monde entier, dans 7 ou 8 pays, et je me suis rendu compte que des enfants, quel que soit le milieu social, la langue, la culture, etc., finalement ils ont la même raison et qu'ils arrivent à développer des arguments tout à fait similaires.
C'est quoi les points communs de la raison universelle?
Je vous donne des exemples très concrets. Je vais vous donner un exemple avec un atelier philo que j'ai fait juste après les attentats du Bataclan, et je pose la question: c'est quoi réussir sa vie? Et un enfant, les enfants commencent à dire globalement c'est le bonheur, c'est être heureux. On est heureux, c'est des enfants de CM1, donc de 9 ans, lorsqu'on est heureux c'est qu'on a réussi sa vie.
Puis c'est déjà mieux que de dire c'est de gagner de l'argent, non?
Oui, c'est déjà un peu mieux, mais ça je l'entends très souvent. Et là il y a un enfant qui dit non c'est pas vrai, parce que les terroristes, ils étaient heureux d'avoir tué des gens, ce qui est vrai, ils pensaient aller au paradis, ils étaient heureux, donc, et pour moi ils ont raté leur vie. Alors, je dis pourquoi? Il dit parce que réussir sa vie c'est peut-être être heureux mais en respectant les autres, en ne faisant pas de mal aux autres. Si on est riche, qu'on partage et qu'on ne fasse pas son bonheur sur le malheur d'autrui. Et tous les enfants ont été convaincus, ils ont progressé dans cette réflexion, et à la fin, je dis à cet enfant: tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate qui a vécu il y a 2500 ans, qui dit la même chose que toi. Il faut pas confondre la vie heureuse, qui peut être égoïste, avec la vie bonne. La vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. Et cet enfant me dit: je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Et ben, il a raison. Socrate pense comme lui, de la même manière qu'il pense comme Socrate. À travers 2500 ans, l'un et l'autre ont découvert par la raison une vérité profonde.
Et on ne compte plus le nombre de livres que vous avez écrits sur Socrate, et je referme la parenthèse aussi vite. Vous avez questionné les enfants sur la religion, sur la mort, sur la vérité. Les vérités sont-elles toutes bonnes à dire? Vous demandez ça à
maman,
la grande question.
Sur l'amour
aussi, exactement. Quelles sont les questions ou les réponses d'enfants qui vous ont le plus étonné dans cette séquence?
Mais déjà les questions. C'est-à-dire qu'on voit dans le film que j'arrive dans la classe avec des petits-enfants de 7-8 ans et je leur dis: de quoi vous voulez parler? Et alors, ils m'ont dit: déjà la philosophie c'est les grandes questions de la vie, donc ils avaient compris quelque chose d'essentiel. Et alors, de quoi vous voulez parler? Première question, pourquoi on existe? Deuxième question, pourquoi on meurt si on existe? Ils sont déjà dans l'essentiel. Et la plupart des enfants, en fait, ils ont envie de parler des grandes questions existentielles dont on parle très très peu. C'est très rare qu'à la famille, en famille ou à l'école, on pose la question: pourquoi on existe? Pourquoi on meurt? Donc ce sont des questions essentielles. Vous savez, Kant disait, la métaphysique, ce sont des réponses que des adultes cherchent à apporter à des questions d'enfants. Et les enfants se posent tous, dès l'âge de 3-4 ans, des grandes questions métaphysiques.
Frédéric Lenoir, philosophe et historien des religions, je rappelle donc le titre de ce documentaire que je vous incite à aller voir, Le Cercle des Petits Philosophes, c'est
je
en
peux
salle
citer juste
depuis
encore une fois,
mercredi,
parce que elle est
quelques
trop
secondes.
Quand on me dit que Dieu est dans le ciel, on voit le ciel, mais on ne voit pas Dieu. C'est un petit garçon qui dit ça. C'est
alors le film est en salle depuis 4-5 jours, allez le voir si vous êtes assez
à Paris,
vite.
C'est possible,
il y a 5 salles à Paris, il y a une vingtaine de salles en province.
Sinon,
on peut trouver tous les noms des salles sur
Sef.
L'association que j'ai créée pour former des gens aux ateliers philo qui s'appelle Sève, comme la sève de l'arbre, sève.org.
Merci.
Et le film s'appelle Le Cercle des Petits Philosophes. C'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Cécile Dangean, et c'est un très beau film, très poétique.
Et on n'a malheureusement plus le temps d'en parler. Merci beaucoup Frédéric Lenoir d'être venu ce matin.
Merci de votre invitation.
Sur France Inter, et bonne journée, il est 8h38.